Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En battant, le cœur se contracte et distribue le sang à l'organisme. La pression, le volume sanguin, eh bien, va dépendre de l'état de nos artères. Et si les parois des vaisseaux perdent de leur souplesse, le débit sanguin risque d'être modifié. Pression systolique, diastolique, moyenne. Les personnes concernées par l'hypertension artérielle apprennent à se familiariser avec ce vocabulaire. Ces mesures, elles vont déterminer la gravité de l'atteinte, légère, modérée, sévère. Contrôle essentiel et pourtant encore insuffisant, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'un hypertendu sur deux ne connaît pas son état. Hypertension, problème de santé publique, maladie chronique la plus fréquente qui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, concernerait un adulte sur trois. Une maladie liée étroitement à l'âge, au mode de vie, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé de plusieurs de nos organes, les reins, le cœur, le cerveau. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons nous intéresser en particulier à l'impact de l'hypertension sur la santé cardiovasculaire, en répondant à toutes vos questions sur le suivi, les traitements et aussi l'hérédité. Questions que vous nous posez sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Journée mondiale du cœur, l'hypertension artérielle. Et nous avons le plaisir de vous retrouver en studio, professeur Jacques Blacher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue chef de service du centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Et vous êtes également professeur à l'université Paris-Descartes. Risque cardiaque et grossesse. Pourquoi faut-il prêter une attention toute particulière à la santé du cœur des futures mères? On va poser la question au docteur Marjorie Richardson, cardiologue à l'Institut du cœur-poumon au CHU de Lille. Elle est membre du réseau cœur et grossesse. Et puis on retrouvera également tout à l'heure en ligne du Congo le docteur Abdoul Sarr. Il est cardiologue spécialiste des maladies cardiovasculaires à la clinique Louise Michel de Pointe-Noire. En fin d'émission, on va donner la parole à Hervé Ménard, directeur de la collecte de l'établissement français du sang. Le FS alerte sur le niveau des réserves de sang en France, au plus bas depuis 10 ans. Appel à la mobilisation des donneurs, appel que relaye donc aujourd'hui Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Blacher, une première question qui est liée directement à notre actualité, la crise sanitaire actuelle. Dans quelle mesure l'hypertension artérielle constitue-t-elle un facteur de risque supplémentaire lorsque l'on contracte le coronavirus? Est-ce qu'on a des données claires là-dessus?
Alors, si l'hypertension artérielle est un facteur de risque de gravité de la maladie, c'est un facteur de risque mineur. On s'est rendu compte initialement qu'il y avait une proportion d'hypertendus un peu plus importante chez les malades et chez les malades sévères. Et puis ensuite, lorsqu'on a ajusté ces analyses sur les facteurs qu'on appelle des facteurs confondants en épidémiologie, c'est-à-dire associés à la fois à l'hypertension artérielle mais aussi au risque de Covid sévère, eh bien on s'est rendu compte que c'était surtout l'âge en premier, loin devant les autres, et puis l'obésité qui était associée aux formes de Covid sévère. Et comme ces deux phénomènes, le vieillissement et l'obésité, sont associés à l'hypertension artérielle, je dirais que c'est plutôt un facteur de risque associé à l'hypertension artérielle. Et puis il y a un point sur lequel il faut insister, je crois, parce que ça a été générateur d'énormément d'angoisse chez nos patients, et c'est certains médicaments antihypertenseurs qui ont été accusés d'aggraver la situation des patients infectés par le Covid ou alors de promouvoir l'infection à partir du moment où on était en contact avec le virus. Ces médicaments sont les médicaments de la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, ou des antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, ARA2 ou Zartan. Ces médicaments ont été accusés, encore une fois, d'aggraver la situation. Aujourd'hui, la situation scientifique est absolument claire. Il n'y a pas d'aggravation et donc il n'y a pas lieu de modifier son traitement lorsque l'on prend ces deux médicaments, ces deux classes de médicaments pour son hypertension artérielle.
Donc, message important, bonne observance, il faut poursuivre le traitement, y compris en période de pandémie.
Bien entendu.
Et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a des choses qui ont été, des informations qui ont circulé au début, qui ont ensuite été corrigées. C'est pour ça aussi qu'il faut se tenir au courant, ne pas hésiter à revoir son médecin hein, pour justement savoir où on en est et bien poursuivre le traitement lorsqu'il est nécessaire.
Oui.
Alors, professeur Blacher, même si l'hypertension est la maladie chronique la plus fréquente, on a à chaque fois beaucoup à apprendre à son sujet, y compris sur les bases. Et à chaque fois, le passage obligé, c'est le fameux contrôle, la mesure. Comment on s'y prend, tout simplement ?
La mesure de la pression artérielle, c'est la meilleure façon, la seule façon de diagnostiquer l'hypertension artérielle, puisque, en fait, le plus souvent, les patients hypertendus ne se savent pas hypertendus, ils n'ont pas de symptômes liés à cette hypertension artérielle dans la majorité des cas. Et donc, on mesure la pression artérielle, on peut soit avoir une mesure, on va dire, conventionnelle, avec un personnel de santé, un médecin ou un infirmier qui va nous mesurer la pression artérielle avec un appareil qui est un appareil de qualité, dans une situation qui est une situation reproductible, donc après un moment de repos, en position couchée ou en position assise. Et puis de temps en temps, on a des mesures qui sont faites dans des conditions qui sont moins bonnes. Et donc, par exemple, avec des appareils qui sont pas toujours de bonne qualité, sans respecter les quelques minutes de repos, ce qui a pour effet plutôt d'augmenter les chiffres de pression artérielle. Mais je dirais, ce n'est pas grave. Si on fait un diagnostic de suspicion d'hypertension artérielle, eh bien ensuite on va chez son médecin qui rétablit le diagnostic. Est-ce que c'était réellement une hypertension artérielle ou est-ce que c'était juste, à un moment donné, une mesure qui a été mal faite ?
Donc on recherche des anomalies. Question très simple hein, de Siakat Côte d'Ivoire. Il demande comment une personne peut savoir si elle souffre d'hypertension ou d'hypotension. Ça veut dire que là, on s'interroge sur les chiffres.
Alors, effectivement, c'est bien le problème, puisque comme c'est une maladie qui, le plus souvent, est sans symptômes, eh bien, on n'a pas de diagnostic en dehors de la mesure des chiffres de pression artérielle. Il faut quand même dire que de temps en temps, eh bien, on peut avoir des symptômes liés à l'hypertension artérielle. Et ces symptômes, c'est souvent des petits symptômes assez banals, comme par exemple des maux de tête, comme par exemple le fait d'avoir des mouches volantes devant son champ visuel, ou d'avoir des petits bruits ou des petits crissements dans les oreilles, ces fameux acouphènes. Et puis après, il y a des symptômes plus sévères. Hein. On peut avoir des douleurs dans la poitrine, on peut avoir une paralysie d'un côté du corps, enfin bref, des symptômes plus sérieux. Concernant l'hypotension, les symptômes sont plus caractéristiques. Et c'est le fait d'avoir, au moment où on se met en position debout, un espèce de passage à vide comme ça, comme si on voyait tout noir, comme si on allait perdre connaissance et se casser la figure. Ça nous arrive à tous, à certains moments, lorsqu'on est un peu fatigué, lorsqu'on se lève un peu vite, lorsqu'on ne fait pas attention, surtout si on a de la fièvre, on a eu une gastro-entérite ou je ne sais quoi, on est un peu déshydraté. Oui, ça nous arrive d'avoir ce petit passage à vide, mais l'organisme réagit de façon adaptée. Eh bien, l'hypotension, c'est quand l'organisme ne réagit pas de façon adaptée, et ça peut aller jusqu'au malaise, l'hypothymique, jusqu'à la perte de connaissance, la chute, et puis ses conséquences.
Alors, certains auditeurs s'interrogent sur des symptômes, ils se demandent si ça peut justement ressembler ou être de l'hypertension. C'est le cas d'Ousmane, hein, qui est au Tchad à Moundou. Question postée sur notre page Facebook. Est-ce que toute palpitation signifie insuffisance cardiaque ? Que faut-il faire ? Alors, il utilise des mots, je pense que c'est quelqu'un qui allait peut-être voir sur Internet, en cas de tachycardie réactionnelle.
Alors, la définition d'une palpitation, c'est de ressentir ses battements cardiaques. Normalement, on ne ressent pas son cœur qui bat. Et puis, de temps en temps, on le ressent. Alors, ça peut nous arriver de temps en temps, lorsqu'on est couché sur le côté gauche, dans le lit, quand on est au calme, on ressent son cœur qui bat. Après, les palpitations, est-ce qu'on le ressent qui bat vite ? Est-ce qu'on le ressent qui bat fort ? Est-ce que ça bat régulièrement ? Est-ce que ça bat irrégulièrement ? Donc, la palpitation, c'est un symptôme qui peut nous faire penser à toute une série de maladies, d'ailleurs cardiaques et extra-cardiaques. Les problèmes de thyroïde peuvent générer des palpitations, par exemple. Donc, non, toute palpitation ne signifie pas insuffisance cardiaque. Et lorsqu'on a une tachycardie réactionnelle, ben après la question c'est de savoir si c'est une tachycardie adaptée Par exemple, si vous faites un 100 mètres, vous allez avoir le cœur qui va battre vite. Et c'est une tachycardie adaptée. Si je vous dis une méchanceté, vous allez être angoissé et vous allez avoir votre cœur qui va s'accélérer. Je le ferai pas, ne vous inquiétez pas.
J'espère, mais je sais répondre, ne vous inquiétez pas. Par exemple, avant un rendez-vous, avant un examen aussi, on peut avoir le cœur, on a l'impression qu'il bat, à faire exploser la poitrine. Là aussi, c'est quelque chose qui correspond à la situation.
Oui, alors c'est intéressant de voir que finalement, les émotions et l'activité physique vont générer une sécrétion d'hormones qui sont les mêmes hormones. Et donc, faire un 100 mètres, c'est la même chose que d'aller à un rendez-vous galant, par exemple. Ça vous stresse.
Ça nous stresse. Et on va entendre tout de suite une question en direct. On donne la parole aux auditeurs, professeur Blacher.
Allô ? Priorité santé. Sur RFI.
Direction Conakry tout de suite. La Guinée en ligne avec nous. Il a de poser sa question. C'est Alexandre, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Ravi de vous parler Alexandre. On vous écoute, racontez-nous pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de votre hypertension. Allez-y.
Bonjour d'abord à tous les auditeurs de RFI et bonjour à mes confrères hypertendus à travers le monde. Je suis déclaré hypertendu depuis mai 2018. Et à ce sujet, puisque je suis soumis à un traitement jusqu'à présent, je n'ai pas eu une satisfaction. Et c'est pour cela que je me suis intéressé à l'émission Priorité Santé. Donc j'ai plusieurs questions à ce sujet. Et la première question, cette maladie, non seulement, elle est aujourd'hui répandue en Guinée, et elle a plusieurs causes. Les causes sont diverses. Maintenant, quelles sont les plus pertinentes? Elle est due à quoi? Deuxième, est-ce qu'on peut être hypertendu sans faire un AVC? Si oui, quelle est la conduite à tenir? Parce que tout récemment, mon épouse qui n'a pas été déclarée hypertendue depuis, a fait son AVC le 26 juin dernier.
Alexandre, excusez-moi, comment se porte aujourd'hui votre épouse? Comment elle va?
Bon, il y a un côté, le côté droit était paralysé, mais il y a une évolution, elle récupère petit à petit.
Et après, justement, son AVC, l'hypertension a été diagnostiquée après l'accident vasculaire cérébral?
Bon, on contrôle la tension pour l'instant. La tension est normale. Depuis les premiers soins, la tension s'est stabilisée, elle est normale jusqu'à présent.
Et vous-même, pour stabiliser votre propre hypertension, vous prenez un traitement, c'est ça, avec plusieurs médicaments?
Oui, pour la première fois, quand je me suis rendu à l'hôpital, on m'a prescrit deux médicaments essentiels. C'était Coverxil et l'autre là, c'est Atogrel 75.
Et vous les prenez régulièrement?
Je les prends régulièrement, mais à un moment, je me sens très bien, donc j'ai arrêté un peu. Et c'est quand mon épouse a fait son AVC, et je crois bien que c'est le stress là, bon, ma tension est remontée en flèche. Au moment où elle était à l'hôpital, je me suis rendu aussi moi-même dans le même hôpital pour les consultations. Donc, un nouveau traitement m'a été prescrit. Maintenant, je prends Amadé associé à Atogrel.
Je vais donner tout de suite la parole au professeur Blacher. Je voulais juste vous poser une question, Alexandre. Vous avez arrêté votre traitement parce que vous vous sentiez mieux, mais le médecin, il ne vous avait pas dit de l'arrêter. Quand vous vous sentez mieux, il avait dit de le continuer.
Bon, maintenant, il m'a dit de continuer.
Oui.
Oui, madame et moi, il nous a dit que c'est un traitement à vie.
Oui, un traitement à vie. Mais la première fois, il ne vous l'avait pas dit, le médecin?
Non, il n'avait pas dit, puisque c'était pas un cas sévère au départ.
D'accord.
Parce que moi-même, je me sentais pas hypertendu. Je dormais à 14h du matin, mon petit garçon à 2 ans à l'époque. A tapé fort dans mon ventre et en criant en même temps. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai eu les maux de tête. Que j'ai soigné pendant 24 heures, ça n'a pas baissé. Et puis, ce qui m'a envoyé à l'hôpital, on a mesuré la tension. C'était très élevé.
C'est très intéressant ce que vous nous dites. Professeur Jacques Blacher, en fait, Alexandre, il attend d'avoir des symptômes de l'hypertension. En fait, il attend de le ressentir, d'avoir un malaise dans son corps pour se considérer comme malade. Pourtant, c'est pas la réalité, d'après ce que vous venez de nous expliquer.
Alors, c'est pas du tout la réalité. Et Alexandre, j'adorerais avoir énormément de temps parce que ce que vous avez dit là montre que, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas bien compris ce qui vous arrivait, ce qui arrivait à votre épouse. Lorsque vous dites que vous prenez des médicaments au moment où vous avez des symptômes, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris que l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui peut faire des dégâts, et des dégâts extrêmement graves sans avoir aucun symptôme jusqu'à l'accident. Je ne sais pas si votre épouse avait des symptômes ou pas avant son accident vasculaire cérébral. Mais on voit souvent, mais partout dans le monde, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, des personnes qui ne se savaient pas hypertendues et qui font un accident grave comme un accident vasculaire cérébral. Deuxièmement, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a une hypertension artérielle, eh bien, désolé de vous le dire, mais on en prend pour perpète. C'est-à-dire que on doit prendre des médicaments et suivre des mesures non médicamenteuses au long cours. Alors, vous dire toute votre vie, je ne le sais pas. Peut-être que dans 5, dans 10 ans, on va découvrir un traitement qui va vous guérir de l'hypertension artérielle. Il ne faut pas l'exclure, il ne faut pas insulter l'avenir. Mais en l'état actuel des connaissances, Alexandre, il faut que vous preniez un traitement tous les jours de votre vie.
Professeur Blacher, vous dites non médicamenteux, on va être plus concret, ça veut dire l'alimentation, l'activité physique?
Alors oui, l'alimentation est importante et la quantité de sel dans l'alimentation est importante. L'activité physique est importante. Il faut pas être trop gros et si on a trop de poids, il faut essayer d'en perdre. Il faut pas trop consommer d'alcool. Si on en prend trop, il faut essayer de réduire sa consommation. Mais je reviens sur ce que vous avez dit, Alexandre, à propos de l'angoisse, à propos du stress, puisque vous faites clairement une confusion entre le stress psychologique et l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une maladie des artères, du système cardiovasculaire. C'est très différent du stress psychologique, même si le stress psychologique augmente la pression artérielle par des mécanismes de régulation hormonale dans l'organisme. Mais ce sont deux choses différentes et on ne traite pas l'hypertension artérielle avec des médicaments qui sont les médicaments du stress, comme par exemple les relaxants ou les somnifères. Enfin voilà, ce sont des choses différentes. Et si vous faites la confusion, eh bien, vous n'allez pas prendre le traitement comme il le faut. Et là, quand vous dites que vous prenez un médicament au moment où ça va pas, eh bien, ça veut dire que vous faites la confusion entre les deux maladies et je pense que c'est dommageable pour votre santé. Et puis, dernier point, Alexandre, à la question que vous posez de savoir si on peut être hypertendu et ne pas faire d'accident vasculaire cérébral, la réponse est oui. Et clairement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si on normalise vos chiffres de pression artérielle avec un traitement, quel qu'il soit, le bon traitement, c'est celui qui va normaliser vos chiffres de pression artérielle pour vous. Et ça ne sera pas le même traitement que le voisin. Si on normalise vos chiffres de pression artérielle, on vous met à l'abri des complications et notamment de l'accident vasculaire cérébral.
Mais l'information à retenir, ce n'est pas parce qu'on va mieux qu'il faut arrêter. Ça, c'est absolument essentiel.
Tout à fait.
Voilà, merci beaucoup Alexandre. Un témoignage très très intéressant. On vous souhaite une excellente journée à Conakry. On va reprendre d'autres auditeurs en ligne, professeur Blacher, dans quelques minutes. Tout de suite, on va parler de la santé cardiaque et de la grossesse. En ligne avec nous, docteur Marjorie Richardson. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cardiologue à l'Institut Cœur Poumon du CHU de Lille, membre de ce réseau Cœur et Grossesse. Pourquoi cet appel à agir pour le cœur des femmes? Justement, pourquoi cette santé cardiaque des femmes enceintes doit-elle être particulièrement suivie?
Alors, elle doit être particulièrement suivie parce qu'on a, depuis quelques années, on constate que la première cause de mortalité indirecte pendant la grossesse, c'est malheureusement les maladies cardiaques. Et donc, il y a un vrai effort qui doit être fait d'information pour que toutes ces patientes qui ont déjà un problème cardiaque connu ou méconnu puissent être mieux suivies et mieux prises en charge. afin de diminuer ces chiffres qui sont malgré tout inquiétants.
Alors, il peut y avoir deux situations. La femme a connaissance de ces problèmes avant la conception, ou alors il y a une insuffisance, un problème qui est décelé au début de la grossesse.
Voilà, exactement. Donc, c'est certain que pour les patientes qui ont déjà une maladie cardiaque connue, consulter avant tout projet de grossesse, garder une contraception tant qu'on n'a pas l'aval et qu'on n'a pas refait le point, ça doit être conseillé. Après, pour toutes ces patientes qui auraient un problème méconnu, bah, il faut alerter sur les signaux d'alarme. Donc nous, on conseille de consulter quand on a déjà un antécédent familial de problèmes cardiaques ou de l'aorte dans la famille, quand on a déjà eu de la chimiothérapie ou de la radiothérapie aussi, parce que ça peut favoriser l'insuffisance cardiaque, quand on a déjà fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, toutes ces choses qui doivent conduire à consulter un cardiologue pendant la grossesse. Et puis également les symptômes, hein, l'essoufflement à l'effort, c'est fréquent chez la femme enceinte, mais un essoufflement marqué surtout la nuit, si la patiente doit s'asseoir pour respirer, la prise de poids rapide, l'apparition d'œdème, a fortiori les douleurs dans la poitrine, ça doit conduire à consulter un cardiologue.
On parle de l'hypertension, hein, surtout pendant cette émission. Un projet de grossesse dans ce cas, hein, si la mère est déjà diagnostiquée hypertendue, est-ce qu'on va dire que c'est particulièrement cadré à ce moment-là par l'équipe médicale?
Oui, alors l'hypertension en général... bien traité, bien surveillé, c'est quelque chose de fréquent, mais d'extrêmement bien maîtrisé. Et donc c'est vrai qu'en cas d'hypertension préexistante à la grossesse, c'est important de faire le point avec son médecin traitant ou son cardiologue sur les traitements qu'il faudra peut-être interrompre, parce qu'il y a certains traitements qui sont toxiques pour le bébé. Mais en tout cas, il y a plein de molécules à mettre qui pourront permettre un équilibre correct de l'hypertension pendant tout le long de la grossesse et éviter les risques qui peuvent survenir si la pression artérielle n'est pas maîtrisée.
Professeur Blacher, vous souhaitez intervenir?
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, docteur Richardson, mais il y a une situation qui est une situation finalement encore plus fréquente que celle de la femme qui a des antécédents cardiovasculaires avant sa grossesse ou des antécédents d'hypertension artérielle traitée. C'est la situation de la femme qui va développer une hypertension artérielle pendant sa grossesse, alors qu'elle n'a jamais eu de problème cardiovasculaire avant. Et en fait, cette hypertension artérielle de la grossesse, qui sont d'ailleurs des désordres hypertensifs, parce qu'il n'y a pas que l'hypertension artérielle, il y a aussi cette terrible complication qui est l'éclampsie ou la pré-éclampsie, eh bien ces complications vont toucher en France une proportion importante des grossesses. Et il y a actuellement Santé publique France qui met en route une très grosse étude qui s'appelle l'étude Conception, où plus de 5 millions de femmes vont être suivies sur leur grossesse. Et on a mis en évidence dans cette étude Conception, qui est dirigée par le docteur Valérie Ollier, qu'il y avait 8% des grossesses en France qui se compliquaient d'hypertension artérielle. Et c'est vraiment un point majeur, parce que la plupart du temps, ces femmes n'étaient pas malades avant la grossesse, n'avaient pas d'hypertension artérielle. Et assez souvent, ces femmes n'ont aucun symptôme. Et donc, il faut impérativement mesurer la pression artérielle, rechercher une protéinurie, c'est-à-dire des protéines dans les urines, avec une bandelette, pour savoir si elles sont justement en train de développer ces complications hypertensives de la grossesse qui vont toucher à la fois la santé de la mère, mais aussi la santé du fœtus et de l'enfant à venir.
Ce sont aujourd'hui des examens qui se font au cours des séances ordinaires.
Oui, tout à fait.
Donc c'est important de le dire. Docteur Richardson, un dernier mot?
Oui, un dernier mot. Il faut aussi retenir que tous ces désordres hypertensifs de la grossesse, enfin, je remercie le professeur Blacher d'être intervenu, c'est également... un motif de suivi ultérieur. C'est vraiment important de comprendre que, à nouveau, la grossesse est un révélateur et que ces désordres hypertensifs sont le signe de possibles maladies cardiovasculaires ultérieures à la ménopause. On sait à l'heure actuelle que l'hypertension gravidique, l'éclampsie, toutes les maladies vasculaires qui peuvent survenir, les retards de croissance des bébés et parfois même les morts fœtales in utero sont des facteurs de risque cardiovasculaire, de faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus à plus long terme. Donc il faudra surveiller aussi ces patientes qu'on aura dépistées pendant la grossesse.
Merci beaucoup, Dr Richardson, pour toutes ces explications. On mettra sur la page Facebook de l'émission les références du site de votre réseau pour aller plus loin. agirpourlecoeurdesfemmes.com. On va se retrouver après une pause musicale, si vous le voulez bien, en priorité santé. Tout de suite, Sibiu Manai, la réunion avec On My Way.
Traveled around the world, day all look sama sama. We no need no talking, no cause le même cause. If they need explanation, roots give a solution. Couler la peau, la part, couler le guerre noir. La ville a dit nous les va ponguer. Ma vie c'est la route pour tout mon cas.
Dans Priorité Santé, on continue de parler de l'hypertension, de la santé cardiovasculaire, toujours avec le professeur Jacques Blacher, et les questions des auditeurs. Tout de suite, en ligne du Niger, on part pour Niamey, où l'on retrouve Jean-René. Jean-René, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On est à votre écoute. Allez-y, le professeur Blacher vous écoute.
Bonjour, professeur. Je suis déclaré hypertendu depuis le 5 septembre de cette année. Je me suis levé un matin pour aller faire pipi. Je me suis écroulé aux toilettes. J'ai perdu connaissance. J'ai fait environ 2 minutes. Et bien après, je suis parti voir mon médecin. Je lui ai expliqué. Il m'a fait un examen, on appelle le télécœur. Il a constaté que ma valve gauche était infectée. Il m'a mis sur traitement. Il a pris ma tension. Ma tension était à 18, par là. Mais jusqu'ici, je suis le traitement. Mais seulement, j'ai un problème. Je suis toujours essoufflé. Je sens l'essoufflement pendant la nuit. Et je me suis rapproché de lui. Je lui ai expliqué. Il m'a dit de prendre furosémide. Mais jusqu'ici, je n'ai pas toujours eu gain de cause.
Alors, votre question, c'est de savoir à quoi sont dus ces essoufflements. Et vous prenez donc aussi des médicaments, c'est ça?
Oui, je prends les médicaments. Mais je voulais savoir à quoi sont dus ces essoufflements. Les médicaments de la tension artérielle qui m'a prescrit, c'est Amadé 40 millilitres.
Et ces médicaments, vous les prenez bien régulièrement, Jean-René?
Je prends régulièrement ces médicaments.
Et ça va mieux depuis que vous les prenez?
Oui, tout de suite, quand je les prends, ça va mieux.
Et justement, dans votre tête, il se passe quoi? Vous dites, ça va mieux, je vais arrêter de les prendre ou je vais continuer justement parce que ça m'aide à me porter beaucoup mieux?
Non, vraiment, Caroline, je suis fatiguée de prendre des médicaments.
Vous en avez marre?
Moi, j'en ai marre, vraiment.
Mais si on vous explique, excusez-moi Jean-René, mais si on vous explique, comme on le dit depuis le début de l'émission, que votre santé en dépend, même si vous en avez marre de prendre ces médicaments, que si vous arrêtez de les prendre, eh bien cela risque d'empirer encore, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je préfère en comprendre le médicament quand je ressens un malaise, par exemple comme furosémic, quand je ressens l'essoufflement, quand en même temps j'avale furosémic, quelques instants après, je suis soulagé. Je ne peux pas passer ma vie à prendre des médicaments.
Oui, mais en même temps, il y a énormément de gens qui passent leur vie à prendre des médicaments. Pensez à toutes les personnes diabétiques, puis tous les patients hypertendus qui prennent leurs médicaments. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui prennent un médicament tous les jours, les personnes malades de la thyroïde, les personnes qui ont le VIH tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut prendre les antirétroviraux. Bien sûr, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte pour notre santé, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas du tout de la leçon de morale que je fais, c'est juste parler tout simplement. Professeur Blacher.
Alors, Jean-René, votre histoire n'est pas très évocatrice d'un problème d'hypertension artérielle ou d'un problème qui soit exclusivement lié à l'hypertension artérielle. Tout d'abord, c'est très rare de faire un malaise avec une perte de connaissance qui soit liée à l'hypertension artérielle. Il y a souvent quelque chose derrière. Ensuite, lorsque votre cardiologue vous a diagnostiqué une infection de la valve cardiaque, ça n'a absolument aucun rapport avec l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui est une maladie sérieuse, l'infection de la valve cardiaque, qui va nécessiter le plus souvent des traitements antibiotiques prolongés pour réellement stériliser l'infection. Et puis, l'essoufflement que vous avez, pareil, n'est pas évocateur d'un problème d'hypertension artérielle. C'est rare d'être essoufflé lorsqu'on a une hypertension artérielle. Et puis, le fait que vous alliez mieux au moment où vous prenez ce traitement par furosémide, qui est un traitement diurétique puissant, eh bien, ça me fait suspecter que votre problème ne soit pas un problème d'hypertension, en tout cas pas exclusivement, mais plutôt un problème d'insuffisance cardiaque. Donc, moi, j'aimerais que vous retourniez voir votre cardiologue, que vous lui posiez clairement les questions de ce que vous avez, c'est quoi votre problème cardiovasculaire aujourd'hui, et c'est quoi la projection sur les années à venir. Comme le disait Caroline, effectivement, si vous avez une hypertension artérielle, eh bien, vous allez vous rendre service si vous prenez un traitement au long cours sans l'arrêter. Mais peut-être que vous n'avez pas qu'une hypertension artérielle. Donc, je pense vraiment que là, on a besoin d'avoir un diagnostic précis au-delà de la problématique de prendre ou de pas bien prendre son traitement.
Ce conseil, retournez consulter Jean-René. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir raconté votre histoire. On prend un dernier auditeur du Sénégal. C'est Amadou. Bonjour, Amadou.
Voilà, bonjour, Caroline.
On est à votre écoute. Allez-y.
Oui, en fait, il y a à peu près 6 ans que ma maman était malade de l'hypertension. Mais tout récent là, ça va pas du tout parce qu'elle ressent des douleurs au niveau du ventre. Elle n'arrive pas à dormir et puis les nucardipines qu'elle prenait, ça la fatigue trop. Elle n'arrive pas à les prendre toujours parce que soi-disant que ça la fatigue.
Vous parlez des problèmes d'estomac de votre maman. Elle a eu des problèmes à ce niveau-là? Elle a eu une maladie qui concernait justement son système digestif?
Oui, elle avait ça, mais ça avait tout récent là. Elle ne disait rien de ça, seulement l'hypertension qui la fatiguait.
Et vous êtes inquiet parce que vous demandez est-ce que ces problèmes de ventre, ça peut avoir un lien avec son hypertension, c'est ça?
Oui, parce qu'elle déclare que tout récent, là, elle a son ulcère qui revient. Et puis, les nicardipines qu'elle prend, là, ça la fatigue, elle n'arrive pas à dormir tout le temps.
C'est un médicament, c'est quoi ce médicament, professeur Blacher?
Alors, la nicardipine, c'est un médicament de la famille des inhibiteurs calciques, la même famille que le traitement que prenait Alexandre tout à l'heure. Alors, je voudrais peut-être, Amadou, vous répondre sur 2 points différents. Le premier point, c'est que il n'y a pas de relation entre l'hypertension artérielle et les problèmes de brûlure ou d'ulcère à l'estomac. Ce sont des choses indépendantes. Et il n'y a pas non plus de relation entre la nicardipine, le traitement qu'elle prend, et les problèmes à l'estomac. Donc ça veut dire que votre maman, elle a 2 maladies. Elle a premièrement son hypertension artérielle, et puis elle a deuxièmement une maladie de l'estomac, et il faut traiter les deux, et les deux de façon tout à fait indépendante. Le deuxième point, c'est que l'hypertension artérielle ne donne pas des problèmes d'insomnie. Et c'est très rare que la nicardipine soit un médicament qui fatigue. La nicardipine ne fatigue que si la nicardipine est trop puissante pour votre maman et si la nicardipine chez elle abaisse de façon trop importante les chiffres de pression artérielle. Mais il n'y a pas de raison que l'hypertension artérielle la fatigue et que le traitement de la fatigue. Donc je pense que il faut vraiment qu'elle ne prenne pas la nicardipine comme ça, au coup par coup, une fois oui, une fois non, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a mal à l'estomac ou autre chose. Il faut vraiment qu'elle ait un traitement au long cours pour son hypertension artérielle et qu'elle puisse être contrôlée de savoir si ce traitement est efficace ou pas, est-ce qu'il normalise ou pas la pression artérielle. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il faut qu'elle traite son problème d'ulcère ou autre maladie de l'estomac.
Voilà pour cette réponse. Très bonne journée Amadou, hein, bonne journée à Mbourouk d'où vous nous appelez. On va tout de suite partir pour le Congo.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
Le temps passe très vite. On vous retrouve, docteur Abdoul Sarr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, spécialiste des maladies cardiovasculaires à la clinique Louise Michel de Pointe-Noire. Alors, est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion, docteur Sarr, de personnes hypertendues dans votre pays, le Congo ?
Merci beaucoup. Bon, selon les dernières études réalisées, la prévalence de l'hypertension artérielle avoisine les 15% en zone rurale et 30 à 35% en zone urbaine, notamment dans les grandes villes comme Pointe-Noire et Brazzaville, et qui rejoint les autres valeurs dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, en fait.
Comment est-ce qu'on explique un tel écart entre ville et campagne ?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, en fait. Déjà, le facteur environnemental qui peut expliquer ça. Le mode de vie, qui est vraiment différent entre les villes et les campagnes. Comme le professeur l'a dit, il y a l'alimentation qui joue beaucoup. Mmh. Et vu qu'en ville, les gens ont accès à une alimentation plus salée que dans la population rurale, donc ce qui explique plus ou moins, entre autres, les facteurs qui pouvaient expliquer cette différence, en fait.
Donc, il y a un vrai travail à faire, justement, sur cette hygiène de vie. Comment, justement, améliorer la sensibilisation des populations, docteur Abdoul Sarr ?
C'est faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Nous nous attelons, lors des consultations, à essayer d'expliquer plus ou moins les facteurs de risque de l'hypertension artérielle à certains patients, mais l'idéal serait vraiment de faire des campagnes de dépistage et de sensibilisation à grande échelle, en fait. Ce serait l'idéal.
Est-ce que, justement, la prise en charge de la santé cardiovasculaire, c'est quelque chose, à vos yeux, qui apparaît comme satisfaisant aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles ?
Effectivement, il y en a beaucoup. Je vais vous citer quelques freins. C'est déjà l'accessibilité au personnel soignant. Un exemple, nous sommes 8 cardiologues pour une population qui avoisine 2 millions d'habitants pour le cas de Pointe-Noire.
Car le compte est vite fait, c'est vraiment très insuffisant.
Effectivement, il y a le coût exorbitant des médicaments. Une bonne combinaison thérapeutique coûte en moyenne 36 euros, sachant que le SMIC dans la plupart des pays au sud du Sahara avoisine 140 euros, ce qui est très difficile. Et le refus de se rendre à l'hôpital, surtout avec le cas de cette nouvelle pandémie, la COVID-19, fait que les patients ont plus peur de venir à l'hôpital, en fait.
Parce que excusez-moi docteur, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, les auditeurs disent on en a marre de prendre nos médicaments, mais il faut comprendre aussi qu'il faut les payer, ces médicaments. On n'a peut-être pas toujours envie de dire j'ai pas le budget pour prendre mes médicaments contre l'hypertension et ça coûte une véritable fortune sur le budget de la famille.
Effectivement, ne serait-ce que ce matin, j'ai dû changer pour 4 patients les molécules, j'ai dû les mettre d'autres molécules parce qu'ils n'arrivaient plus à payer. Ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus d'assurance et vu qu'il n'y a pas d'assurance maladie, donc c'est un peu difficile pour les patients. Donc vraiment, c'est un véritable casse-tête pour nous les soignants et pour les patients aussi.
Et c'est d'autant plus dommage, vous le disiez, docteur Sarr, que vous essayez de travailler sur la prévention, mais avec la pandémie, eh bien, beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'hôpital où ils pourraient parfois recevoir des conseils très importants, aller en consultation.
Malheureusement, c'est le cas. Et vu que c'est une pandémie qui ne semble pas prête de s'arrêter, donc on se pose des questions, comment faire avec ces patients-là et comment aller vers les patients pour poursuivre leur prise en charge, en fait.
Docteur Sarr, peut-être un dernier message pour informer, mais peut-être aussi pour rassurer celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, je dirais qu'il est important de se faire dépister. Moi, je dirais qu'il est primordial de se faire prendre la tension au moins deux fois par an, si c'est vraiment possible. De faire l'observance thérapeutique. Quand j'ai écouté votre auditeur de la Guinée qui s'est dit « quand je me sens mieux, j'arrête », parce qu'il y a un manque d'informations criables par rapport à cette affection qui est chronique. Et surtout, sensibiliser les autres qui prennent en charge ces pathologies-là, en fait, qui prennent en charge d'autres choses, d'autres situations comme les églises et les mosquées. Parce que la différence avec nous, c'est que toute pathologie chronique, que ce soit l'hypertension ou le cancer ou autre chose, est vite assimilée au mysticisme. Mmh. Donc les patients se retrouvent fatigués de venir à l'hôpital et vont dans des centres comme ça, et nous devons travailler avec ces personnes-là pour une meilleure prise en charge.
On peut aller à l'église, on peut aller à la mosquée et chez le médecin, l'un peut aller avec l'autre. Professeur Blacher, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais insister, docteur Sarr, sur ce que vous dites par rapport au dépistage, parce que je pense effectivement que le dépistage, c'est l'affaire des médecins, mais ce n'est pas que l'affaire des médecins. Il faut faire des campagnes d'information, et ça, ce sont les autorités de tutelle qui devraient, qui ont la mission de faire ce type de campagne, et clairement, aujourd'hui, nous, médecins, on n'est pas suffisamment aidés par nos autorités. Je voudrais vous poser une question rapide, docteur Sarr. Vous nous avez parlé de la différence de la fréquence de l'hypertension artérielle entre les villes et les campagnes. C'est vrai que cette différence semble extrêmement importante. Vous avez parlé des différences en matière d'alimentation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de cette différence qui est liée aussi à la sédentarité et à l'activité physique? Et si oui, est-ce que c'est, d'après vous, une part importante?
Effectivement, c'est l'une des causes qu'on a détectées, effectivement. En campagne, bon, les gens sont moins sédentaires, c'est les agriculteurs en général, donc ils font plus d'activité physique que ceux qui sont en ville, comme nous les médecins qui passons 8 heures de temps assis dans nos bureaux. Donc il y a une grande sédentarité qui existe en ville contrairement aux campagnes. Effectivement, c'est l'un des éléments à signaler.
On vous remercie infiniment pour toutes ces explications, docteur Abdoul Sarr. Peut-être un dernier mot justement par rapport à ce qui vient d'être dit, professeur Jacques Blacher. Aujourd'hui, on n'a pas une telle différence entre la campagne et la ville. Ça s'est lissé, les habitudes de vie se sont un petit peu homogénéisées. On vit un peu de la même manière?
Alors oui, alors c'est vrai que dans les pays industrialisés, la différence est probablement moindre. Mais on sait bien que l'on soit dans les pays les plus industrialisés, que l'on soit dans les pays les plus pauvres, eh bien, ce sont les mêmes facteurs de risque au niveau populationnel qui génèrent de l'hypertension artérielle. Et donc, on a parlé de l'alimentation. Le docteur Sarr nous a parlé de l'alimentation et du sel qu'il y a dans l'alimentation, mais il y a aussi le nombre de calories. Il y a le poids qui est un élément extrêmement important. Plus les populations sont obèses, et plus les populations sont hypertendues. Et puis, il y a d'autres facteurs. Il y a l'activité physique, comme le disait le docteur Sarr. Il y a la quantité de sel, d'alcool dans l'alimentation. Plus on prend de l'alcool et plus le niveau de pression artérielle est élevé. Et puis, il y a probablement un contexte, on va dire, génétique. Il y a des populations qui sont un peu plus sujettes à l'hypertension artérielle, et puis il y a des familles qui sont plus sujettes à l'hypertension artérielle, et c'est justement au sein de ces familles que les mesures de prévention sont les plus importantes, parce qu'elles vont avoir un impact au niveau individuel.
Merci infiniment pour toutes ces précisions. Il y a encore beaucoup à dire, hein. Professeur Jacques Blacher, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de service du Centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris, professeur à l'Université Paris-Descartes.
Priorité santé sur RFI.
Don du sang, c'est urgent. L'établissement français du sang lance cet appel en ligne avec nous. Hervé Meinrad, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de la collecte de l'EFS. Des réserves en France au plus bas depuis 10 ans. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Eh bien, c'est lié directement à la situation de la pandémie, qui affecte beaucoup le comportement des Français dans leur vie, donc une difficulté à se mobiliser autour du don. Et puis également une grosse perturbation dans l'organisation de nos collectes, puisque 80% de nos collectes sont faites sur des collectes mobiles, dont une bonne partie sont faites en entreprise et en milieu scolaire universitaire. Et ces deux points de collecte aujourd'hui sont lourdement affectés par la pandémie.
Il y avait déjà eu une première alerte à la fin du confinement. On comprend, tout le monde était coincé à la maison. On ne pouvait pas aller donner son sang. En plus, les hôpitaux et tous les services de santé étaient concentrés sur la prise en charge du Covid-19. Ça veut dire que ça ne s'est pas amélioré avec l'été?
Oui, ça ne s'est pas amélioré avec l'été. En fait, depuis le début de la crise, hein, depuis le mois de mars, on vit des fluctuations de dons qui sont très très fluctuantes, dans des proportions très différentes de ce qu'on a l'habitude d'observer. Et c'est vrai que pendant l'été, on a eu un bon niveau de dons au début de l'été. Et puis après, ça s'est fortement diminué à partir de la mi-juillet. Et pendant cette période, les établissements de santé, eux, ont consommé plus que, ont utilisé des produits de manière plus importante que les autres étés. Et donc, du coup, ça a diminué très rapidement nos réserves qu'on avait constituées au début de l'été.
Bien sûr, parce qu'il a fallu reprogrammer toutes les opérations qui avaient été différées à cause de la situation sanitaire. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, quels sont vos besoins ?
Aujourd'hui, nos besoins, c'est d'avoir 10 000 dons par jour. C'est le besoin qu'on a pour répondre aux besoins des établissements de santé à qui on délivre par semaine 45 000 produits.
Alors aujourd'hui, voilà pour l'état des lieux, mais on va bien dire aux gens, hein, pour qu'ils comprennent bien que finalement, on peut faire beaucoup en donnant un petit peu de son temps. Ça prend combien de temps d'aller donner son sang ?
Alors, le prélèvement d'un don de sang va durer 10-12 minutes. Au total, de l'accueil jusqu'au départ, ça prend 45-50 minutes. C'est relativement rapide et avec un don, vous pouvez aider à soigner jusqu'à 3 personnes puisqu'avec un don, on va faire une poche de globules rouges, une poche de plaquettes et une poche de plasma. Donc avec ce temps-là, vous pouvez soigner 3 personnes.
Et pour ceux qui se demandent, oui, mais est-ce que je risque d'être contaminé si je vais donner mon sang ? Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Par rapport au Covid ?
Par exemple ?
On prend toutes les mesures de distanciation et d'hygiène qui sont demandées à être appliquées pour garantir qu'il n'y ait aucun risque sur nos lieux de collecte. Donc le port du masque pour tout le monde, des mesures de distanciation, un protocole d'hygiène et de nettoyage qui est renforcé. Donc tout est fait pour que les garanties de sécurité soient apportées à notre personnel et à toutes les personnes qui se présentent sur la collecte.
Encore très concrètement, donner son sang, c'est de quel âge à quel âge ? Et pour les personnes qui sont dans quelle situation de santé précisément ?
Alors, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être dans un bon état de santé, de ne pas avoir fait d'épisode de fièvre dans les 15 derniers jours, de traitement antibiotique, et puis de ne pas avoir fait certains voyages ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire un petit essai d'évaluation sur le site internet de l'établissement. Vous trouverez également tous les lieux de collecte où vous pouvez aller donner votre sang.
Merci beaucoup, hein, Hervé Menrad. Donner votre sang, c'est important. Directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Et pour être le plus efficace possible, on peut prendre rendez-vous en ligne. Tous les liens à retrouver sur la page de l'émission, bien sûr. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassène et Juliette Brault, avec Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous derrière la vitre et derrière la console en studio. Demain dans Priorité Santé, on va parler de la vésicule biliaire, prise en charge des affections comme les calculs qui se forment à l'intérieur de cet organe auxiliaire de l'appareil digestif. On va donc se retrouver demain. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.